Mélomaniaque. L'émission quotidienne de musique classique sur Divergence FM.
Faire de la musique est avant tout un acte d'amour.
Les notes, rien que les notes, mais aussi ce qu'il y a entre les notes. Mélomaniaque sur Divergence FM, le 93.9, et c'est l'émission quotidienne de musique classique sur Divergence. Les 100 plus grands pianistes du siècle, nous continuons notre exploration classée par ordre alphabétique de ces pianistes du siècle, et nous en sommes à Alfred Cortot. Alfred Cortot, pianiste français. Je disais qu'il était né en 1877, il est mort en 1962, et c'est un pianiste qui est poursuivi, qui a été poursuivi longtemps par une légende noire à son encontre, surtout vis-à-vis de ce qu'il avait fait pendant la collaboration, son implication dans le régime de Vichy. Je disais qu'il avait été en Allemagne nazie, en pleine occupation en 1942. Il avait été sollicité par Wilhelm Furtwängler pour faire un voyage qui a abondamment servi la cause du collaborationnisme. Par contre, en 1943, il est à nouveau sollicité, mais cette fois-ci non plus par Wilhelm Furtwängler, mais par le régime même de Vichy. Il est sollicité pour refaire un nouveau voyage à travers l'Allemagne nazie. Et là, cette fois, il refuse. Alors la question qui se pose, Alfred Cortot, était-il ou n'était-il pas antisémite ? Ça fait vraiment débat parmi les historiens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on ne trouve aucune condamnation faite par Cortot des lois raciales qui sévissaient dans toute la France à l'époque. Mais aussi, on ne trouve aucun écrit de Cortot à caractère antisémite. On peut lui reprocher, et on lui a abondamment reproché, de n'avoir rien fait pour certains de ses anciens élèves qui ont été poursuivis par le régime. Et je pense entre autres à Clara Askill, l'une des très grandes pianistes du siècle, qu'on abordera lorsque nous en serons à la lettre H. Et Vlado Perlmutter, qui également, lui, a eu des tas de soucis. Et Cortot n'a rien fait pour eux. Par contre, il a fait des choses pour d'autres qui avaient eu des problèmes parce qu'ils étaient juifs. Je pense entre autres qu'il a aidé aussi le pianiste Léon Cartoon, la violoniste Dani Brunschvic, le flûtiste Marcel Moyse, le musicien Reynaldo Hahn, la soprano Maria Freund, le pianiste François Lang et le pianiste Henri Etlin. Et ça, c'est des gens qu'il a aidés, et il a aidé également beaucoup de musiciens à se faire exempter du service du travail obligatoire, le fameux STO. Donc le problème demeure, donc nous ne prendrons pas parti, à simplement remarquer qu'il a eu des problèmes à la Libération, mais on va y revenir après une petite pause musicale, et on va parler d'un musicien juif, Félix Mendelssohn Bartholdy, qui était honni par le régime nazi. Tous les statues de Bartholdy ont été mises à terre par le régime. Et Alfred Cortot, quand il était encore dans le trio célèbre Alfred Cortot, Jacques Thibault, Pablo Casals, en 1927, ils ont joué le trio pour piano, violon et violoncelle en ré mineur, opus 49 de Félix Mendelssohn Bartholdy. Et on va écouter tout de suite le troisième mouvement. Thank you. Félix Mendelssohn-Bartholdy, le trio pour piano, violon et violoncelle en ré mineur, opus 49, le troisième mouvement, avec un trio de légende, Alfred Cortot au piano, Jacques Thibault au violon, Pablo Casals au violoncelle, un enregistrement de 1927. Je disais qu'Alfred Cortot va avoir des petits soucis à la Libération, effectivement. Le samedi 2 septembre 1944, il est arrêté par trois FFI accompagnés d'un agent de la police judiciaire. Il va passer alors là 3 jours en prison. Il va avoir plusieurs interrogatoires et il va y avoir deux procès à Cortot, puisque comme il est à la fois administrateur et pianiste, donc deux procès. Un premier procès en qualité de professeur honoraire au conservatoire et de président du comité professionnel de l'art musical et de l'enseignement libre de la musique. Et celui-ci, ce sera devant le comité national d'épuration des professions d'artistes dramatiques, lyriques et de musiciens exécutants. Et un deuxième procès en tant qu'artiste devant le conseil d'enquête de l'administration des Beaux-Arts. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, vous le saurez après qu'on ait eu écouté le prélude numéro 2 en la mineur opus 28 de Frédéric Chopin, Alfred Cortot au piano, dans cet enregistrement de 1934. Frédéric Chopin, le prélude numéro 2 en la mineure opus 28, Alfred Cortot dans cet enregistrement de 1934. Mais là, nous sommes en 1944. Donc, deux procès, on va parler donc du premier procès. Il passe devant le premier comité le 23 février 1945. Les charges d'accusation, ce qu'on lui reproche le plus, ce sont les tournées de concerts qu'il a fait en Allemagne en 1942. Par contre, on reconnaît qu'il a joué pour des prisonniers français et en fait que Cortot a versé l'intégralité des bénéfices de ses concerts à de multiples œuvres sociales et qu'il a donné une partie de l'argent aux prisonniers français, aux prisonniers musiciens. Voilà. La deuxième chose qu'on lui reproche, c'est son rôle carrément sous Vichy. Et je cite l'acte d'accusation. Son attitude vichysoise, provocante, porteur de la Francisque, membre du Conseil national, propagande démoralisante et blessante vis-à-vis des Français de la métropole et de ceux des forces combattantes. Alors le 28 avril 45, il y a un résultat du premier procès qui décide que son action sous Vichy et ses concerts en Allemagne sont compensés par ses actions en faveur de plusieurs personnes. On va faire une petite pause, on continue avec Frédéric Chopin. C'est vrai que c'était, je pense, avec Wagner, le compositeur préféré de Alfred Cortot. Eh bien, on va écouter le prélude numéro 13 en fa dièse mineur opus 28 de Frédéric Chopin, Alfred Cortot au piano. Nous sommes en 1934. Frédéric Chopin, le prélude numéro 13 en fa dièse majeur, opus 28, enregistrement de 1934. Nous parlions du premier procès qui a eu lieu en 1945. Le premier donc, procès va considérer tout de même que Alfred Cortot mérite des sanctions administratives. Et il émet le vœu que Cortot soit révoqué de ses fonctions de président du comité professionnel de l'art musical. En fait, Cortot avait déjà démissionné en automne 44 et que sa retraite de professeur au conservatoire soit supprimée. À noter d'ailleurs que ce dernier point ne sera jamais appliqué. Le dossier est renvoyé au deuxième comité. Et le deuxième comité réexamine son dossier et va finalement condamner Cortot le 17 octobre 1947 à une peine légère mais symbolique, la suspension de son activité professionnelle durant toute une année. Mais comme la peine est rétroactive, il peut reprendre son travail dès le 1er avril 1947. On va écouter maintenant de Frédéric Chopin, toujours avec Alfred Cortot, le prélude numéro 15 en ré bémol majeur, opus 28, toujours ce bel enregistrement de 1934.
Thank you.
Le prélude numéro 15 en ré bémol majeur, opus 28 de Frédéric Chopin, Alfred Cortot au piano, nous sommes en 1934. Revenons en 1947 donc. Alfred Cortot, après deux procès, peut finalement reprendre son travail. Il décide de faire sa rentrée qui doit avoir lieu le 18 janvier 1947 en matinée et après-midi, et le 19 janvier en après-midi, ça sera au Théâtre des Champs-Élysées avec l'orchestre de la Société des Concerts dirigé par André Cluytens. Mais, ça va très mal se passer. Ben comme vous le verrez, après avoir écouté ce prélude numéro 16 en si bémol mineur, opus 28 de Frédéric Chopin, toujours l'enregistrement de 1934. Le prélude numéro 16 en si bémol mineur, opus 28 de Frédéric Chopin, Alfred Cortot, piano, nous sommes en 1934. Mais en 1947, je disais que les deux concerts de retour vont très mal se passer. D'abord parce que le syndicat des artistes musiciens de Paris et la région parisienne vote l'interdiction à ses adhérents de l'accompagner en raison de l'attitude de M. Cortot durant les années d'occupation. Ce qui veut dire que tout musicien jouant avec Cortot sera radié immédiatement. Donc, aucun musicien ne veut jouer. Bon, Cortot accepte un compromis. Au lieu de jouer le concerto de Schumann avec l'orchestre, comme il était prévu, il va jouer tout seul des œuvres de Chopin entre des pièces symphoniques de Bach et de Debussy. Mais ça ne va pas se passer comme ça, puisque les concerts vont tourner à l'émeute. Les premiers concerts, le 18 janvier 1947, nous avons les partisans de Cortot qui commencent à siffler et qui exigent que le concerto prévu ait bien lieu. À l'opposé, donc, les opposants de Cortot se mettent à le siffler et l'insultent en insinuant sa proximité avec les nazis. L'après-midi, c'est pire. Les partisans des deux camps sont là et on se bat dans la salle, tandis que Alfred Cortot essaye de rester impassible, de jouer en jouant son programme. Il est rappelé plusieurs fois malgré les huées, les bravos, donc c'est le bordel complet. Et le lendemain, comme on va le voir, le 19 janvier 1947, ça va être pire. Mais on va d'abord écouter, puisque la musique adoucit les mœurs, de Chopin, le prélude numéro 17 en la bémol majeur, opus 28, toujours l'enregistrement de 1934.
Thank you.
Et le prélude numéro 17 en la bémol majeur, opus 28 de Frédéric Chopin, 1934, Alfred Cortot au piano. Je disais que le 19 janvier 1947, le troisième concert d'Alfred Cortot, ça va être encore pire que la veille, puisque la veille il avait réussi à finir malgré les cris, malgré les huées, malgré les sifflets, malgré les baffes qui volaient à droite à gauche. Il avait réussi à finir son concert. Là, le 19 janvier, c'est pire. Puisque entre les pour et les contre, dès le début du concert, on se bat dans la salle. Il y a des gens qui ont pris des crécelles, ça hurle, ça crie. Impossible de jouer, donc le concert s'arrête et la salle du théâtre des Champs-Élysées n'avait jamais vu ça. Donc grand scandale, vacarme indescriptible, arrêt du concert. Mais vous le verrez, Alfred Cortot va bientôt connaître sa revanche. Ben on verra ça juste après le prélude numéro 24 en ré mineur opus 28 de Frédéric Chopin. Toujours l'enregistrement magnifique de 1934 avec Alfred Cortot au piano. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'était le prélude numéro 24 en ré mineur, opus 28 de Frédéric Chopin, enregistrement de 1934 avec Alfred Cortot. Je disais qu'Alfred Cortot va avoir sa revanche. Il va lui falloir attendre le 17 octobre 1949 pour, à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Chopin, pour qu'il donne un récital à la salle Pleyel avec les œuvres préférées de Chopin. Et on craint l'émeute, on craint le scandale, comme ça avait eu lieu en janvier 1947. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il va avoir un véritable triomphe. Il va avoir une ovation. Eh bien, c'est sur cette ovation qu'on va se quitter. Demain, on va aborder un autre pianiste avec beaucoup plus de sérénité. Mais ceci, comme disait Rudyard Kipling, c'est une autre histoire. Mélomaniaque, l'émission quotidienne de musique classique sur Divergence FM.
Faire de la musique est avant tout un acte d'amour.
Les notes, rien que les notes, mais aussi ce qu'il y a entre les notes.